Alors, gender gap. C'est-à-dire qu'il y a un électorat différencié en fonction des sexes statistiquement.
Oui.
Si on d'ailleurs, si ça arrive, ça prouve bien que ça dit quelque chose.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen sans son présentateur vedette, toujours alité et fiévreux. Mathieu, on t'embrasse de très très loin. Mais l'équipe B est toujours là et si en apparence vous avez l'impression que tout va bien, hier après-midi c'était la panique. Quand on a appris que c'était nous qui allons prendre les rênes de l'émission, l'ambiance a bien changé dans le bureau. Quentin, lui, s'est tout de suite imaginé à la place de Mathieu, voire de Nagui,
oui,
et a commencé à s'entraîner, à lancer l'émission du mieux qu'il pouvait.
Radio Gana Swinda, bonjour. Radio Gana Swinda, bonjour.
Bon, c'était pas gagné, Cyril Lacarrière était aussi en train de se décomposer, même sa coupe de cheveux, toujours impeccable, était totalement sans dessus-dessous. En pleine crise d'angoisse, Quentin était obligé de le rassurer en douceur.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher.
De mon côté, j'aimerais vous dire que j'étais apaisée, sereine, zen, comme à mon habitude
bien
en
sûr,
fait.
Ouais, bah oui.
Mais malgré les encouragements de mes camarades, ce n'était pas vraiment le cas.
Il va, mais j'ai peur. Parce que la neige, elle est trop molle pour moi.
Beaucoup trop molle. Bon, au final, plus de peur que de mal, notre baptême du feu s'est bien passé. Je voulais fêter ça avec un petit verre trinqué avec ce cher Quentin, lui, mais impossible de lui faire casser son dry January qu'il a déjà cassé le 6 janvier, je
non,
le précise.
J'ai commencé le 6 janvier, ça n'a rien à voir.
Ouais.
En revanche, est-ce qu'on peut débriefer le comportement de Cyril du jour, qui, après avoir enfin pris les commandes de cette émission et qui hier a fait son premier top horaire sur Inter avec les bips sans bafouiller, a défilé devant chaque bureau du 6e étage de la maison de la radio, costume blanc, nœud pape, pont blanche.
Ouais,
bip, bip. Ouais, Cyril, on a dit qu'on restait sobre. On
oui,
s'en est sorti hier, mais bon, il en reste deux à faire. À ce propos, Mathieu Noël, humoriste alité, nous a fait un vocal. Écoutez.
Mes agneaux, vous avez franchi la première marche hier en réussissant l'émission sans moi. Je vous souhaite de réussir à aller encore plus loin aujourd'hui, mais attention, la pression sera d'autant plus forte qu'aujourd'hui, Saruman renaît peu à peu de ses cendres. Il sera peut-être même en état de vous écouter.
Allez, alors,
non,
allez,
coupe,
c'est bon. C'est mieux. Oui, c'est mieux, ça revient pas.
Allez, Zoom Zoom Zen sans Mathieu, J2, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Et bonjour, Anya Durovitch.
Bonjour.
Vous êtes politiste, chercheur au laboratoire Printemps à l'université de Versailles-Saint-Denis. Quentin, en Yvelines, vous êtes spécialisé dans les inégalités de genre et vous analysez plus particulièrement le rôle du genre dans les comportements politiques et notamment le vote. Vous avez écrit un article en 2023 dans la revue française de sciences politiques intitulé « Des avancées paradoxales, inégalités générationnelles et de genre dans la participation politique en France entre 1981 et 2018 ». Ouh, j'ai plus de souffle. Pendant une heure, vous allez nous aider à comprendre ce qu'est ce gender gap.
Mais avant présentation, Manon Mariani, chaque jour, vous nous poussez à aller plus loin dans notre réflexion. Un personnage de film, de roman, une personne sur les réseaux. Aujourd'hui, quelle sera l'autre personne à suivre?
Eh bien, le pendant féminin de Donald Trump en encore pire. Et oui, c'est possible. Elle est blonde, elle est MAGA, elle est anti-avortement et déteste les féministes. Bref, vous vous en doutez, c'est une personne à suivre que je ne conseille évidemment pas de suivre.
Ce vote selon notre genre, c'est aux États-Unis qu'on en a parlé récemment. Mais ici, on avait pas les moyens de vous envoyer là-bas, Quentin, désolé.
Non.
Donc vous êtes allé gentiment
était...
dans les rues de Paris.
Oui.
Et alors, est-ce que ça parle aux gens, cette notion de voting gender gap?
J'ai dû quand même préciser le voting gender gap, le vote, la politique, en tout cas nos avis. Mais alors, qu'est-ce que le genre a à voir dans notre façon de voter? J'ai arrêté quelques personnes au parcours très différent qui se sont prêtées au jeu du micro-trottoir de Zoom Zoom Zen.
À 16h30, on retrouvera Pierre Courade qui animera son deuxième Zoom Zoom test. Il a déjà pris la grosse tête depuis hier.
C'est vrai.
Ça va être encore pire aujourd'hui. Et en fin d'émission, c'est GC qui viendra nous parler de gender gap. Mais d'abord, Anya Durovitch, est-ce que le genre peut expliquer un vote?
Oui, puisque le genre influence votre position sociale et économique que vous avez dans la société. Ça influence, ça peut voilà, avoir un impact sur les chances voilà, de faire l'expérience des violences sexistes et sexuelles. Être une femme, voilà, ça augmente les chances de se retrouver en précarité professionnelle, de se retrouver pauvre. Donc tous ces phénomènes-là sont liés au genre et donc ces phénomènes sociaux ont ensuite un impact sur les comportements électoraux.
Et on va en parler pendant cette émission. Et pour décrypter ce terme du gender gap, qui de mieux que notre Trumpiste préféré, le seul d'entre nous qui a maté l'investiture de Donald Trump en direct, en entier et la main sur le cœur, évidemment. Cyril Lacarrière, dites-nous, le gender gap, d'où ça sort ?
Une précision pour commencer. Quand vous entendez cette notion de gender gap, le plus souvent, c'est pour parler de l'écart de salaire entre un homme et une femme pour un même poste. Eh bien, ce gender gap, c'est une notion fluide, car en plus de faire une référence à des salaires, plus surprenant, elle sert aussi à décrypter des comportements électoraux. Et c'est aux États-Unis qu'on l'a constaté récemment. D'ailleurs, c'est aux États-Unis qu'on a d'abord observé ce voting gender gap, c'est son petit nom. C'est un concept qui a été forgé par une des plus grandes associations féministes du pays, la National Organization of Women, dite NOW, si vous voulez briller lors des dîners en ville. Et ce terme apparaît en fait lors de l'élection de Ronald Reagan à la Maison-Blanche en 1980. On remarque à cette époque que les femmes ont tendance à voter plus démocrate que les hommes. Une différence que la NOW va utiliser pour mettre en avant le fait que les femmes, quand elles votent, seraient des citoyennes plus réfléchies et plus humanistes que les hommes.
Et maintenant, Cyril, petit retour en arrière.
Oui, car si on en croit notre invité, vous, Anya Durovitch, ce voting gender gap a connu plusieurs étapes importantes. Je vous la fais courte, car vous allez le détailler mieux que moi. L'optation du droit de vote pour les femmes, et elles votent plutôt du côté conservateur à ce moment-là. Puis la période de ce qu'on appelle le modern gender gap, dans les années 80, les femmes commencent à voter à gauche, et puis le radical right gender gap. Ouais. Ça, c'est théorisé par la chercheuse américaine Terry Givens en 2004. Et qu'est-ce que c'est que ce radical right gender gap ? Eh bien, que les femmes soutiennent moins les partis de droite radicale et populiste que les hommes. Alors, qu'est-ce que ce voting gender gap dit de nos sociétés actuelles ? Les femmes sont-elles vraiment plus progressistes que les hommes ? Comment vous l'expliquez ? Eh bien, figurez-vous qu'on a une heure pour le savoir.
Merci Cyril, à vous et à votre bel accent. Anya Durovitch, on vient de l'entendre, ce concept de gender gap est forgé aux États-Unis. Est-ce que c'est un phénomène binaire qui peut s'expliquer aussi par le système politique binaire des États-Unis, à savoir les républicains contre les démocrates ?
Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, le système américain est assez binaire en comparaison avec nos systèmes partisans européens. Et donc, forcément, ça forge une certaine polarisation autour de certains enjeux et facilite donc, on va dire, l'apparition d'un gender gap où, dans le cas américain, on peut plutôt parler d'un invariant de la vie politique américaine puisque le gender gap y existe depuis les années 80. Fluctue entre 4 et 12 points de pourcentage. Donc pour le dire concrètement, techniquement, un gender gap, c'est le soutien électoral des femmes, donc le pourcentage en termes de pourcentage, minus le pourcentage d'hommes votant pour un autre candidat ou pour un autre parti. Donc c'est ça techniquement le gender gap. Et donc dans les faits, le gender gap est évidemment tout sauf binaire, puisqu'il faut évidemment creuser, regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Et lorsqu'on regarde le cas des États-Unis, ben on voit très vite que, justement, d'analyser différents sous-groupes de femmes nous dit beaucoup sur d'où vient ce gender gap. C'est-à-dire que qui sont vraiment les femmes qui soutiennent les démocrates depuis des années ? Qui sont vraiment les femmes qui font partie de leur base électorale la plus fiable ?
Vous avez dit, avant de creuser ça, vous avez dit 4 points de différence. C'est pas tant que ça, finalement, 4 points, non ?
En fait, ça dépend des élections. Un gender gap, c'est jamais figé, c'est dynamique, ça dépend des stratégies électorales des partis, ça dépend du contexte politique, c'est-à-dire des alliances entre partis politiques, ça dépend de la saillance des enjeux. Est-ce que l'avortement, par exemple, est un enjeu très important durant une campagne électorale ou pas du tout ? Et qu'en fait, on est sur des enjeux qui sont beaucoup moins clivants entre les hommes et les femmes. Et donc, en fonction de cela, où est-ce qu'il y a un scandale par rapport à un candidat politique lié à des violences sexistes et sexuelles ? Et donc, tout ça peut faire en sorte que ça gonfle ou ça va plutôt faire baisser le gender gap.
Mais j'ai l'impression que quand on parle du gender gap, on dit que ça sert surtout à analyser les femmes. Mais du coup, pas du tout les hommes ?
Non, pas du tout. En fait, pendant longtemps, il faut dire que c'est évidemment un petit biais de la recherche, c'est qu'on s'est avant tout focalisé sur les femmes, mais aujourd'hui, de plus en plus, je dirais, depuis quelques années, on analyse de plus en plus le comportement électoral des hommes, et puisque un certain nombre de phénomènes nouveaux, comme par exemple le radical right gender gap, sa disparition ou son renforcement, est évidemment aussi lié au comportement des hommes, et d'ailleurs, on peut dire que même aux États-Unis, ce gender gap, s'il bouge, c'est très souvent à cause des hommes et pas aussi souvent à cause des femmes, parce que ce sont les hommes, finalement, qui sont plus volatiles que les femmes.
France Inter. Zoom Zen.
Zoom sur le gender gap ou comment expliquer un vote en fonction du genre. C'est ce qu'on essaie d'expliquer avec notre invitée, la politiste Anya Durovitch. Anya, on va reprendre dans l'ordre ce que Cyril a appelé les trois étapes du gender gap dans le vote. D'abord, juste après l'obtention du droit de vote, les femmes votent massivement pour les candidats conservateurs. Comment on explique ça ?
Bah, c'est un reflet de leur position dans la société à l'époque. C'est-à-dire que les femmes étaient beaucoup plus dépendantes à la fois des hommes, mais aussi de la religion. Elles étaient beaucoup plus religieuses. Elles n'avaient pas le droit d'aller travailler sans l'autorisation de leur époux. Ouais. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur époux.
Donc on vote comme notre époux, comme notre père, comme les hommes de la famille, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à cette époque-là, bah, leur vote était influencé par leur, à la fois leur religiosité, mais aussi leur dépendance économique et sociale des hommes. Et donc, elle votait beaucoup plus conservatrice, mais, et surtout, et ça c'est important, elle votait moins. Donc, elle allait quand même beaucoup moins souvent aux urnes que leurs homologues masculins.
Et justement, sur le vote conservateur, on en parlait un peu hors antenne. Aux États-Unis, on l'a vu lors de la dernière élection, alors il y a une nette différence entre ce que les femmes noires ont voté, largement en faveur de Kamala Harris, et les femmes blanches qui ont voté pour Donald Trump. Et ça, quand est-ce que... C'est un phénomène qui est ancien, qui est récent, comment vous l'expliquez ?
Oui, c'est un phénomène qui ne date pas de hier, qui date vraiment de la deuxième élection de George W. Bush. Donc depuis 2004, les femmes blanches aux États-Unis votent majoritairement pour le candidat républicain et en même temps les femmes noires américaines, elles votent massivement démocrates. C'est vraiment la base électorale la plus fidèle pour les démocrates, suivie par les latinas, donc les femmes originaires de l'Amérique du Sud. Et donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas faire erreur. Même si on analyse les gender gaps, les femmes tout comme les hommes ne constituent pas un bloc électoral homogène. Il y a bien des différences et ces différences parfois elles sont même plus importante entre femmes qu'entre femmes et hommes.
Mais qu'est-ce qui a expliqué, cette bascule en 2004 en faveur de W. Bush et donc du camp conservateur ? Il y a quelque chose qui était latent dans la société américaine ?
Bah, ce qu'on voit de manière générale, c'est qu'il y a eu les attentats donc en 2001, et donc aussi un virement identitaire d'une frange de l'électorat américain. Et ce qu'on voit aussi depuis, c'est la montée en force de la variable du diplôme, puisque parmi les électrices blanches, bah, on trouve des énormes écarts entre les femmes blanches très diplômées qui votent massivement pour les démocrates et les femmes blanches faiblement diplômée, qui, elle, soutient massivement les candidats républicains, mais toujours un peu moins que les hommes, quand même.
On parle du gender gap, évidemment, aux États-Unis, mais en France, il existe aussi ?
Oui, il existe.
Il est autant prononcé ?
Non, pas du tout. Alors, je disais au début de l'émission, le gender gap, c'est vraiment un invariant plus ou moins de la politique américaine. C'est pas du tout le cas en France. En France, c'est un phénomène assez volatile qui change de l'élection à l'élection. On retrouve parfois un modern gender gap. Parfois, pendant un temps, on avait retrouvé un gender radical right gap qui a disparu depuis 2012, qui n'est pas revenu depuis. Donc, c'est-à-dire que cette tendance des femmes à moins voter pour le FN ou aujourd'hui le RN, ce n'est plus le temps depuis Marine Le Pen a pris les rênes du Rassemblement National.
Techniquement, comment ça marche ? Comment on compte ça ? C'est de la sociologie, hein, j'imagine, il y a des études. Mais comment ça marche ? Qui on interroge ?
Bah, on fait des enquêtes post-électorales, voire électorales, où on interroge les Français, ouais, où on va leur demander pour quel parti ils ont voté à une élection donnée.
Oui, mais le vote est anonyme.
Tout
donc
à fait.
C'est compliqué
donc
d'avoir...
Donc c'est des déclarations.
Oui, on est sur des déclarations.
Oui.
En pratique, aux dernières élections européennes, pour la première fois, les femmes ont autant voté que les hommes pour la liste de Jordan Bardella. Ça vous a étonné ?
Non, puisque c'est... on va dire oui et non. Ça m'a étonnée parce que c'est la première fois... On va dire, c'est pour l'instant, le Gender Radical Right Cap, il avait disparu. Donc ce fossé de genre pour les partis d'extrême droite en France, il avait disparu pour la présidentielle, mais on l'avait pas encore. Il est souvent réapparu lors des élections de deuxième ordre, donc des élections moins mobilisatrices. Et on se rappelle notamment en 2022, on n'avait pas une forte mobilisation pour les élections législatives. Cette fois-ci, les élections législatives, avaient un taux de participation beaucoup plus élevé, et donc on mobilisait beaucoup plus de personnes. Et visiblement simplement, ça a eu un impact. Ce gender gap, il n'a pas réapparu et donc on est dans la continuité de ce qu'on observe en France depuis 2012.
Ça veut dire qu'il y a eu plus de femmes qui ont voté pour Jordan Bardella
non.
que pour Marine Le Pen ?
Aucune différence pour l'instant. Mmh. Ce que nous montrent les enquêtes, c'est qu'il n'y a pas de... Le genre n'a aucun impact sur le vote RN.
Place à la rue maintenant, place à la voix du peuple. Quentin, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce n'était pas le sujet le plus simple pour vous. Comment se sont passées vos rencontres sur ce gender gap ?
Allez, je commence avec ce chauffeur VTC, costume, manteau de costume, cravate, gel dans les cheveux, lunettes fumées et petit chewing-gum. Il est adossé à son van.
Bonjour monsieur.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Je m'appelle Florent, du latin Florence, florissant. Oh là là, gender gap, gender, I don't know what it means.
Tu vois, on est...
Ah, moi je ne vote plus, cher monsieur. Et non, je n'y crois plus.
Je lui parle du voting gender gap. Est-ce que les hommes votent pour les hommes ? Est-ce que les femmes votent pour les femmes ? C'est plutôt ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles américaines.
Alors, oui, c'est tout à fait probable, c'est même une certitude. Vivement que le monde soit mené par des femmes, je pense que ça irait mieux. De manière générale, c'est vrai que les femmes sont probablement plus apaisées, ont un rapport à la vie, elles donnent la vie, donc un rapport aux choses et aux gens qui est peut-être plus pondéré, qui est moins agressif. Il y a moins de combats de coq, ce qui est très fatigant chez les hommes.
Mais alors, lui, Florent, est-ce qu'il a déjà voté pour une femme ?
Je me souviens avoir voté pour la petite femme noire là, que j'aimais beaucoup, qui avait fait, je sais même pas si elle avait été remboursée de sa campagne. Comment elle s'appelle ? Celle qui a été ministre d'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps pour elle.
Christiane Taubira.
Christiane Taubira. Voilà, je me rappelle avoir voté pour elle. Quand je votais, parce qu'effectivement maintenant je ne me déplace plus.
En quittant Florent, je m'interroge sur les abstentionnistes. Qui sont-ils ? Plutôt des hommes ? Plutôt des femmes ? Sociologiquement, est-ce que ça raconte d'ailleurs quelque chose ? J'arrête Ingrid, 35 ans, qui sort de la boulangerie.
Gender cap, non. Ah, gap, pardon. Bah alors justement, typiquement, si vous prenez mon exemple, moi, je suis une personne non-binaire. Donc,
c'est super intéressant, car en préparant l'émission, je n'y avais même pas pensé. Effectivement, il y a toute une partie de la population qui ne se range ni d'un côté ni de l'autre. Alors pour elle, est-ce qu'il y a un gender gap ?
Alors, moi, honnêtement, je ne pense pas. Moi, je fais partie de la communauté queer. Comment dire, comme on est minorisé et stigmatisé tout le temps, on va... Enfin, principalement voter pour des gens qui nous représentent, qui représentent nos idées. On a voté pour le NFP.
Pour un programme.
Pour un programme, voilà. Alors peut-être que, comment dire, si on généralise, pourquoi pas ? Bah, du coup, ça voudrait dire quoi, que les femmes votent à gauche et les mecs à droite ?
Oui, c'est un peu ce que ça veut dire.
Oh, bah, je suis pas sûre, hein, parce que quand on regarde, lorsque Ségolène Royal s'est présentée, les femmes étaient les premières à la démonter. Donc je pense qu'il y a aussi de la misogynie intériorisée chez les femmes. Donc pas forcément.
Autre époque, 2007, ça va faire 20 ans.
Ça va faire 20 ans. Ouais, c'est vrai, je suis un boomer. Et je me rappelle parce que enfant, moi j'étais ado à ce moment-là, pré-ado. Bah justement, je me disais, étant une femme, en fait, elle était forcément moins légitime à mes yeux, de 12 ans, de petite fille de 12 ans, que je sais pas ses adversaires qui étaient des mecs.
Ma dernière rencontre, c'est ce jeune homme, la trentaine, jeune, frisé. Il porte un perfecto en cuir. Il ressemble au mec des années 60. Bienvenue sur France Inter.
Bah merci.
Est-ce que ça vous fait plaisir?
Je suis plus Europe 1, CNews.
Ah, bon, bah alors, notre patronne Adèle Van Der Hecht n'a-t-elle pas dit qu'on parlait à tout le monde ? Alors je parle à tout le monde, ni de gauche, ni de droite.
Alors, gender gap, c'est-à-dire qu'il y a un électorat différencié en fonction des sexes statistiquement ?
Oui.
Si ça arrive, ça prouve bien que ça dit quelque chose. Et ça me semble pas du tout étonnant. Hein. L'homme avait plus une tendance, je m'inclus dedans, peut-être plus brutale, peut-être plus facilement à... Comment dire, il est plus brutal, la femme dans l'énergie est plus douce, et donc vouloir arrondir un peu les angles, ça me semble pas délirant, alors que l'homme il a plus un côté, si tu veux, un peu plus cash.
Un peu plus cash, d'où cette campagne virile de Trump qui emprunte les codes masculinistes.
Ouais, bah moi c'est simple, pour moi, je vais dire ce que Trump a dit hier, hein. Pour moi il y a deux genres, il y a le masculin, le féminin, il n'empêche pas qu'il faut pas, voilà, si les gens ils veulent changer de sexe ou quoi... Je te dis, je connais bien les femmes, je sais qu'il y a énormément de filles, qui sont malheureuses en fait de trouver que les hommes sont de moins en moins masculins. Donc en fait, tu vas trouver aussi à l'inverse des femmes qui vont se dire ils sont où les hommes, les vrais ? Et c'est pas du tout masculin ce que je dis, j'en connais énormément en fait qui pensent ça. Donc ça peut aussi cliver aussi dans une... sous-catégorie de femmes aussi, tu vois.
Oui, une sous-catégorie de femmes, c'est marrant dans sa voix. Alors, est-ce qu'il pourrait voter pour une femme, lui ?
Je pourrais voter pour une femme si elle prenait mes valeurs. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, pas vraiment une Sarah Knafo, bah, tu vois, par exemple, moi, je suis plutôt, on va dire, dans le délire un peu viriliste et tout, tu vois. Moi, Sarah Knafo, très bien. Moi, si elle est plus pour mes valeurs, il n'y a pas de problème.
Alors, disons qu'il n'y a pas de problème. Elle est intéressante, cette question à poser en société. Je vous la recommande. Dans un repas de famille, les brunchs entre amis, ou même pendant un date, ouais, histoire de passer un cap, en parlant de ce voting gender gap.
Merci Quentin. On continue à parler du voting gender gap dans Zoom Zoom Zen avec notre invitée Anya Durovitch, de très beaux spécimens,
oui,
dans ce,
dans ce complètement là.
Oui, oui, bah, les témoignages des deux hommes ont plu et me font quand même m'interroger. Est-ce que les hommes ont plus de mal à voter pour une femme, Anya?
Alors, empiriquement, là-dessus, il n'y a pas de réponse claire. Et c'est d'ailleurs, ça me fait réagir à tout ce qui a été dit. Non, en général, les gens votent plus pour le programme que pour le candidat. Il peut avoir un effet candidat, c'est tout à fait possible, mais c'est pas systématique. C'est pas parce que le parti est représenté par une femme que systématiquement il va avoir un gender gap, parce que les femmes votent pour les femmes et les hommes votent pour les hommes. Ça non, ça vraiment c'est quelque chose qu'on n'observe pas, en tout cas pas systématiquement. Une autre question qui était posée était celle de la binarité. Effectivement, oui, les enquêtes ils souffrent d'une mesure, on va dire, plutôt classique du genre, mais il y a de plus en plus d'enquêtes qui justement introduisent une catégorie intermédiaire, donc dans les travaux futurs, on va avoir des résultats un peu plus, on va dire, moins binaires, justement, sur ce phénomène-là. Mais il faut savoir, statistiquement, oui, c'est encore un peu compliqué.
On en sait déjà quelque chose de ce vote des personnes qui se disent non-binaires ?
Non, justement. Il n'y en a pas assez, mais c'est en devenir, donc on va avoir, dans les années à venir, beaucoup de recherches là-dessus.
Florent, on l'a vu, adossé à son van, il a déjà voté pour une femme, mais il ne vote plus aujourd'hui. On sait quelque chose de l'abstention ? Est-ce qu'on sait si elle est genrée ?
Alors oui, elle est genrée. Parfois, elle est genrée. Encore une fois, ça dépend des élections et des types des élections. C'est-à-dire qu'il y a des élections nationales très mobilisatrices. Bah, là, on observe que les femmes, et notamment les jeunes femmes, participent plus que les jeunes hommes. Les élections un peu moins mobilisatrices, comme les européennes, voire les régionales, on retrouve un certain gender gap traditionnel où les femmes se déplacent un peu moins souvent que les hommes. Donc, ça dépend toujours du type d'élection.
Peut-être parler d'Ingrid qui a réagi sur Ségolène Royal. Elle dit, oui, j'avais 12 ans et j'avais intériorisé de la misogynie en moi, puisque même moi, à 12 ans, de mon œil d'enfant de 12 ans, je disais non, elle n'est pas légitime. Il y a un héritage de ça encore aujourd'hui, en 2025 ?
Je pense que c'est tout à fait, et que c'est qu'on sait très bien que les inégalités de genre parmi le personnel politique ne sont pas dépassées et qu'on le retrouve. Et d'ailleurs, en Europe aujourd'hui, lorsque vous comptez le nombre de femmes parmi les chefs d'État, oui, on sait très bien que voilà, il y en a pas plus de 10. Et de manière générale, aucun Parlement européen a dépassé parmi les membres de l'Union européenne, a dépassé les 40% de femmes élues dans le Parlement. Donc on n'est pas à une parité véritable, on est toujours sur représentation autour de 60% d'hommes, voire plus. Par contre, ce qui est intéressant du cas des élections de 2007, et encore une fois, ça montre à quel point il faut toujours désagréger le gender gap, c'est qu'en 2007, la politiste Marinette Sino a montré que les femmes de plus de 65 ans ont massivement voté pour Nicolas Sarkozy. Ouais. Et que c'était les jeunes femmes, les femmes entre 18 et 24 ans, qui, elles, avaient voté beaucoup plus pour Ségolène Royal. Donc, les gender gap, comme je le disais, elles sont vraiment multiples et il faut vraiment toujours creuser et les désagréger pour voir voilà, d'où vient cette différence qu'on observe et quelle sous-groupe de femmes, quel sous-groupe démographique de femmes est derrière ce mouvement.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Zoom Zoom Zen se penche aujourd'hui sur la question du voting gender gap, le vote, a-t-il un lien avec notre genre ? La politiste Anya Durovitch est avec nous jusqu'à 17h pour nous éclairer, mais lui aussi il nous éclaire,
ouais,
par sa grâce, ouais, son humour, auréolé de son talent en tant qu'adjoint à la rédaction. Pour animer ce Zoom Zoom Test, qui, on peut le dire, le climax du gai savoir du paysage audiovisuel français, acclamons, que dis-je, Pierre Couronne.
On va dire bonjour déjà. Bonjour à tous. Et bien que gay et savoir soient intimement liés, j'essaie approuve ce message, le monde du Zoom Zoom Test est impitoyable. Alors que la thématique d'hier liée à l'espionnage devait être pour lui l'occasion d'enfin prouver aux yeux du monde et de ses deux familles qu'il a bel et bien joué un rôle décisif dans le renseignement américain, de la crise des missiles à la mort de Marilyn, Cyril Lacarrière n'a obtenu qu'un piètre score. Zéro. Même quand un lui a réussi à répondre à trois questions, ce qui n'était pas arrivé depuis la venue d'Hélène Gâteau, motivée par d'autres atouts de la maman du colonel que par son amour des bêtes à quatre pattes. Aujourd'hui, Cyril peut se rattraper, pas que l'égalité homme-femme soit sa priorité, mais parce que ce quiz concocté par le sémillant Gérald Darnaud nous replonge en 1944. Oh. 1944, en effet, les femmes obtiennent le droit de vote et papy, lui, décroche à la fois la Croix de Londres et la Croix de Vichy, marque une grande souplesse dans le choix de ses mentors, une virtuosité qui s'est transmise de génération en génération.
Vous pensez que c'est maladroit si je lui passe un CV pour qu'il lui donne un Nagui direct?
Et puisqu'on parle de mentor, écoutez ce que disait le président Chirac. 34 ans après que les femmes ont eu le droit d'exprimer leur vote par leurs opinions politiques par le vote, et je ferai pas d'imitation, je m'appelle pas Quentin Huy. Chirac disait donc, pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Voilà, c'est pas mal. Hein. Ce quiz sera donc un florilège de déclarations sur les femmes. On va commencer le quiz, ne vous inquiétez pas, c'est pour mettre dans l'ambiance. Le quiz sera donc un florilège de déclarations des femmes et de politique. Et comme c'était un peu difficile pour vous hier, comme c'était un peu difficile pour vous hier et que Cyril n'a pas fait wokisme LV2, les réponses à ce quiz seront binaires. Il va falloir me dire si la déclaration vient d'une femme ou d'un homme, ça c'est un point. Et si en plus vous me donnez le nom, c'est un point supplémentaire. Je réajuste mon micro et on déclare avec une déclaration lapidaire. Ma femme est un homme politique. Qui a dit ça, un homme ou une femme?
C'est un homme.
C'est un homme.
Un homme, bonne réponse de Quentin, et vous avez un point supplémentaire si vous me dites de qui il s'agit. Ah bah non, il fallait être plus rapide.
De
Quentin
qui
était plus rapide.
Ma femme est un homme.
Ma femme est un homme.
François Hollande.
François Hollande, non, c'est Jacques Chirac.
Ma femme est une femme.
Un point simplement.
Chevalier d'Espalès.
Ma femme s'appelle Maurice, effectivement. Très belle référence de Cyril qui nous prouve qu'en 1944, il était déjà un auteur de Je suis partout. Français, le président Chirac était donc le président de tous les Français, mais pas pour toutes les Françaises. Il disait ça de Bernadette, effectivement. Enfin, on espère que c'était de Bernadette dont il parlait.
Bernadette Chirac.
Manon, Quentin, Cyril, qui a dit ? On pourra considérer les hommes et les femmes égaux en politique le jour où il y aura des femmes ministres incompétentes.
Une femme.
Bonne réponse de Manon. Alors, point supplémentaire si vous me donnez le nom de cette femme.
Christiane Taubira ?
Eh non, malheureusement. Françoise Giroud. Françoise Giroud qui a bien connu Cyril. On peut lui faire confiance puisque la cofondatrice de l'Express fut également secrétaire d'État à la condition féminine. Une sorte de Marlène Schiappa en mode vintage. En parlant d'incompétence, écoutez bien la prochaine citation.
Vous salissez tout.
Qui l'a prononcée ? Un homme ou une femme ? Écoutez cette citation.
Oui, Claire.
Ségolène Royal a un port phallique, une allure très virile, masculine. Elle a une autorité naturelle.
Femme.
Homme.
Cyril ?
Je sais pas.
Oh bah, Cyril, vous êtes dans ce studio ou ailleurs, là ?
Je réponds
physiquement ici, mais ailleurs.
Mon esprit se balade.
Bonne réponse de Quentin, c'est bien un homme, évidemment.
Laurent Fabius ?
Qui a pu dire ça ? Laurent Fabius, pas tout à fait. Non.
Il parlait des gosses, Laurent
Fabius. Éric Zemmour. C'était Éric Zemmour. Ouais. Une citation de 2006 qui prouve que le Z avait bien compris que les meilleures femmes politiques étaient des hommes. Et l'avantage d'Éric Zemmour, c'est sa constance, puisque 10 ans plus tard, face à Rouletel Krief, il disait
« Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais...
Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
Eh ouais, précis comme une montre suisse. Petit coucou en passant à Mathieu Noël qui nous écoute depuis son chalet de Gstaad, acheté en viager à Johnny Hallyday. Pour notre prochaine citation, direction la France de 1991, Quentin. Direction la France de 1991, Quentin. Celle qui voit naître les trois enfants de la décennie, Manon Mariani, Quentin Lui et mon petit frère. Qui a pu dire ce qui va suivre, une femme ou un homme? Écoutez bien la citation. À vrai dire, aucune femme moche ne peut réussir en politique. Pour réussir en politique, que l'on soit un homme ou une femme, il faut avoir la capacité de convaincre. Convaincre, c'est séduire. Donc, il vaut mieux être bien physiquement.
Femme. Oui.
Femme.
Bonne réponse de Manon Marie.
Et je dirais,
qui est ça?
Rachida Dati.
Eh non, pas Rachida Dati. Désolé Manon, c'est Edith Cresson. C'est Edith Cresson.
Ah bon?
Eh oui, bien dit Edith. Et surtout, être bien physiquement, c'est bien pour...
Vous étiez très surprise, Manon.
Non, mais parce que je voyais bien Rachida Dati dire cette phrase.
Ça aurait pu, mais c'est Edith Cresson. Je vous rappelle que vous aviez fait un papier il n'y a pas très longtemps sur Edith Cresson. La première fois qu'une femme devient première ministre. Attention, sprint final. Plus besoin de me donner le nom de l'auteur ou de l'autrice de ces phrases. Vous répondez chou si vous pensez que c'est un homme qui a pondu la citation, ou rose si c'est une femme.
Mais n'importe quoi.
Je salue Gérald Darnault pour, pour m'avoir mis ça dans
la bouche. On est dans les années 50 là ou quoi?
Voilà.
Donc chou ou rose?
Chou ou rose. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Ça va aller très vite.
Oui.
Attention. Cyril, vous pouvez jouer aussi, hein, je vous rappelle. Hein. Le combat pour le droit des femmes est quotidien et universel.
Rose.
Rose, bien joué Manon. C'est Nadine Morano. Eh oui. C'est étonnant que cela puisse paraître. Prochaine citation. Le progrès, c'est de permettre aux femmes de rester à la maison.
Chou.
Bah Rose. Non, c'est une femme.
C'est une femme. Oh, bravo, oui. Quentin, lui qui connaît bien les femmes. Évidemment, c'est Marine Le Pen en 2012. On savait rire à l'époque. Dernière question.
Ah oui.
Dernière question. C'est bien la parité en politique, mais c'est bruyant.
Chou.
Rose.
Chou. Bonne réponse de Quentin, lui. Chou. Un petit peu comme Cyril qui est dans les choux actuellement.
Ah oui, c'est...
Et c'est même un petit chou puisque c'était Nicolas Sarkozy qui disait ça en parlant de Valérie Pécresse. Écoutez, je fais les comptes et c'est Quentin lui pour la deuxième fois consécutive qui remporte ce Zoom Zoom test. Bravo Quentin.
Faut se poser les bonnes questions.
Non, franchement, c'était pas mal.
Très bien.
Pas mal. Merci.
Qu'est-ce qui était pas mal, le Zoom Zoom test ou la victoire de Quentin?
Non, votre Zoom Zoom test, Pierre.
Merci.
Oui, non mais Pierre, c'est bon. Hein.
Je vous laisse
le petit carré, c'est tout à l'heure.
On en est à 6 minutes.
Merci Pierre. Peut-on expliquer un vote par le genre? C'est la question que l'on se pose cet après-midi avec notre invitée, la politiste Anya Durovitch. Anya, on en parlait hors antenne. Vous nous disiez que certains partis politiques d'extrême droite mettaient exprès une femme à la tête de leur parti. Pourquoi ça?
Parce que ça permet de mieux emballer un fond idéologique qui est souvent radical, raciste, sexiste. Et donc il y a des études en sciences politiques qui montrent que mettre une femme à la tête d'un parti, ça permet de laisser apparaître ce parti plus doux qu'il est, sans changer le programme politique de ce parti-là. Et c'est quelque chose qu'on observe effectivement dans plusieurs pays européens. Donc je cite notamment l'exemple de l'Allemagne où on a à la tête de l'AFD Alice Weidel qui est une femme lesbienne mariée avec une femme étrangère qui ont adopté deux enfants et qui est dans un parti qui dit aujourd'hui pour nous la famille normale c'est un homme et une femme, on accepte les autres, on tolère les autres et donc en fait toute la stratégie de l'AFD là-dessus c'est de brouiller un peu les pistes. Donc ils ont au fond un programme assez réactionnaire en ce qui concerne les rôles de genre et la place des minorités sexuelles, mais ils disent, regardez, on permet quand même une femme qui justement est lesbienne d'être présidente de notre parti, donc on ne peut pas être si terrible que ça.
L'AFD qui est soutenue par Musk en plus.
Oui, tout à fait.
On a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir de Quentin, un de ses témoins parler du vote possible en faveur de Sarah Knafo. Est-ce que ça veut dire aussi qu'elle-même pourrait plus réussir à attirer des votes, alors de masculinistes un peu dans ce genre-là, ou même des votes de femmes, qu'Éric Zemmour lors de la dernière élection présidentielle?
Alors, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va s'arriver dans le futur. Ce que je vous disais tout à l'heure, et ça on le sait vraiment, c'est que c'est pas systématique. C'est pas parce qu'on met une femme à la tête d'un parti que systématiquement le gender gap il disparaît. Il faut aussi évidemment une certaine, on va dire, dédiabolisation du discours, ce qu'a fait Marine Le Pen. Donc ce qu'elle a fait concrètement, elle n'a plus elle n'a plus eu un discours aussi sexiste et misogyne que son père. Bon, on va dire c'est pas très difficile, mais c'est un fait. Éric Zemmour en 2022, on l'a bien vu, a recréé un gender radical right gap puisque lui il était vraiment associé à ce discours sexiste, à ces remarques misogynes, et donc ça a recréé un radical right gender gap qu'on pensait qu'avait disparu en France, mais finalement cette configuration nouvelle en 2022 a bien montré que ça peut avoir un impact.
Ça veut dire que là où le RN a aboli ce radical gender gap, on l'a vu se reconstituer avec le vote en faveur du parti Reconquête.
Tout à fait.
Ce qu'on remarque aussi, c'est que le fossé dans le vote entre les hommes et les femmes touche aussi les jeunes générations. Je disais qu'en Pologne, les femmes de la Gen Z n'étaient que 16% à voter pour l'extrême droite. C'est à la fois, du coup, un fossé de genre et un fossé générationnel qui se dessine aujourd'hui, si je comprends bien.
Oui, et ce qu'il faut savoir dans le cas de la Pologne, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que le contexte politique est très très important, et tout dépend de l'importance des enjeux d'une campagne électorale. En Pologne, en 2023, l'enjeu principal était l'avortement. Donc, le fait que le gouvernement avant a quasiment interdit l'avortement, et l'opposition ensuite s'est mobilisée contre ça. Il faut dire d'ailleurs qu'en Pologne, il y a les plus fortes mobilisations qui ont été comptées dans ce pays depuis la chute du communisme. Il y a eu la plus forte participation électorale depuis 1919. Donc c'est vraiment un enjeu qui a énormément mobilisé la gauche et notamment les femmes et notamment les jeunes femmes.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Des fous, des folles, ça nous arrive d'en croiser dans cette émission. Mais là, Manon, je crois que vous êtes allé chercher dans le top niveau, le très haut du panier de Greatest of All Time, rayon dinguerie. Manon, pour approfondir le sujet du gender gap, vous avez dégoté la personne à plus ou moins suivre.
Oui, on va dire ça comme ça. Je vous présente Marjorie Taylor Greene. Elle a 51 ans, elle est américaine. Et en quelques années, elle est devenue l'une des figures les plus clivantes de la droite américaine. Élue républicaine de Géorgie, elle est une sorte de Donald Trump féminine.
He can kiss my ass.
Il peut aller se faire voir, voilà un aperçu de comment Marjorie Taylor Greene parle d'autres politiques sans langue de bois aux médias. Et vous allez voir, son parcours est assez atypique, car il y a encore 10 ans, Marjorie Taylor Greene était co-gérante d'une salle de sport dans la petite ville d'Afaldreta, en Géorgie. Elle s'est fait connaître pour ses prises de position ultra conservatrices sur les réseaux, notamment avec le mouvement complotiste QAnon. Bien qu'elle ait tenté de se distancer de ce groupe après son élection, ses propos racistes, antisémites et islamophobe continue d'alimenter les polémiques. Marjorie Taylor Greene se présente comme une nationaliste chrétienne. Elle est évidemment contre l'avortement qu'elle considère comme un crime. Elle rejette aussi toute forme d'avancée pour les droits LGBTQIA+. Son discours identitaire est axé sur une défense de l'Amérique blanche et chrétienne face à ce qu'elle appelle la révolution progressiste qui menace les fondements du pays. Et puis elle n'hésite pas à multiplier les attaques contre les républicains modérés qu'elle considère comme des traîtres, ce qui lui crée des ennemis au sein de son propre camp. En 2021, elle s'est même fait exclure de la Chambre des représentants pour des propos conspirationnistes qu'elle a tenus à son époque QAnon. Internet n'oublie jamais, elle avait notamment déclaré qu'aucun avion n'avait frappé le Pentagone pendant le 11 septembre. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole de cette droite radicalisée, féminine, qui cherche à redéfinir le Parti républicain loin des compromis politiques traditionnels. Même si cette même radicalité la place en marge des institutions. Elle est à la fois adulée par une base électorale fidèle, mais aussi critiquée par ses détracteurs, forcément. Une chose est certaine, Marjorie Taylor Greene est là pour rester. D'ailleurs, elle va travailler au nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk, une alliance qui s'annonce explosive.
Merci Manon Mariani. Anya Durovitch, est-ce que ce genre de figure attire le vote féminin malgré les prises de position extrêmes ?
Bon, pour le cas des États-Unis, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas les données. Ce qu'on peut dire de manière générale, parce qu'on voit aussi en France qu'il y a des figures de femmes... ou les trade drives sur les réseaux sociaux, ou d'autres figures qui, justement, prennent un retour en arrière. C'est pas quelque chose qu'on observe dans les enquêtes d'opinion et dans les enquêtes sur les valeurs. Les femmes restent majoritairement en faveur de plus de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, lorsqu'on pose des questions du style est-ce que vous trouvez que les femmes peuvent être des leaders politiques au même niveau que les hommes, une majorité des Français vous dit que oui. Donc on voit très bien qu'il y a eu progressisme social qui s'est installé dans la société, et c'est plus, on va dire, sur des questions de sexisme moderne que la population aujourd'hui est divisée. C'est-à-dire que les questions, est-ce que le féminisme a été allé trop loin ? Est-ce que les hommes aujourd'hui sont à leur tour discriminés, etc.
Zoom, zoom, zen sur France Inter.
Il prend son rôle d'animateur du Zoom Zoom Test très à cœur. Ma mère est même devenue sa fan numéro 1. Pourtant, je lui ai dit à quel point derrière son apparence de scout se cachait un petit diablotin de mauvaise foi. Mais c'était trop tard. Elle avait déjà fondé son club, le Courade Zouz. Mon Dieu. Rebonjour, Pierre Courade.
Je vote pour votre maman, Manon. Bonjour, Manon. Rebonjour, rebonjour à tous.
Tout ce qu'on s'est dit dans l'émission, résumé en une minute, c'est parti.
Le gender gap, le fossé entre les genres. C'est toujours bien de traduire en fin d'émission le terme qu'on a employé 300 fois pendant une heure. Un terme employé ici pour expliquer les motivations de vote. On parle alors de voting gender gap, où on ne vote pas pour tel ou tel candidat parce qu'on est un homme ou une femme biologiquement, mais parce que l'histoire des hommes et des femmes, leurs aspirations, leur émancipation n'est pas la même. Les femmes ont lutté pour obtenir le droit de vote. 1944 en France, comme rappelé dans le Zoom Zoom Test, elles luttent toujours pour plus d'égalité, pour que leur corps leur appartienne pleinement, pour se faire une place dans le Zoom Zoom Zen. Mais non, ces combats amènent forcément à des votes différents de ceux des hommes. C'est ce qui est venu nous expliquer notre invitée, la politiste Anya Durovitch. Si en France aujourd'hui le phénomène est assez volatile, le fossé s'est creusé lors des dernières élections américaines où les femmes et les hommes ont voté dans des proportions inverses pour Donald Trump et Kamala Harris, une campagne marquée par la question de l'avortement, une polarisation qui s'accentue chez les jeunes générations comme on a pu le mesurer lors des dernières élections en Pologne. Les questions sociétales étaient là aussi au cœur de la campagne. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'au genre s'ajoute le fossé générationnel, un peu comme la bio grinder de GC, Twinkie cherche Daddy.
Oh,
c'est pas vrai. Merci Pierre.
C'est des tirs. C'est
et maintenant, c'est GC qui nous rejoint sa première fois en tant que titulaire. Ce poste, attention quand même, mon vieux, c'est précaire comme situation, je peux changer d'avis. Mais j'en conviens, c'est une ascension spectaculaire.
Mais merci, mon Cyril. Alors, c'est vrai que c'était un très mauvais moment à passer, mais je regrette pas d'avoir couché avec toi. Je plaisante. Je regrette parfois. Puis après, je regarde où ça m'a mené, puis je me dis, chronique récurrent quand même, ça valait bien une petite turlute. Hein. Surtout qu'il n'est pas difficile, pépère, en 15 secondes, c'était plié. Pour une fois que je mise sur le bon cheval. Qu'est-ce qu'il y a en face? Elle est jalouse, la Pierre Courage? Hein, ça lui arrivera aussi quand elle aura du pouvoir. C'est fascinant, le pouvoir. Hein. Moi, en tout cas, ça m'a toujours fait fantasmer. Vu que le seul pouvoir que j'ai, c'est de m'inventer une vie avec mon rédacteur en chef qui me regarde jamais. Moi, j'aime tellement le pouvoir. Heureusement que je suis née en démocratie. Sinon, j'aurais fini femme de dictateur, c'est sûr. Oh, c'est sûr, j'aurais été là. Bébé, merci pour ton cadeau d'hier. Une mine de diamants en Sierra Leone, t'es fou. Oh, à moi, les plus belles pierres. Fini les pierres ternes et les pierres courades. Oh. Toute cette imitation uniquement pour cette vanne, ouais. Bien sûr. Oui. Évidemment, c'est la vie que j'ai choisi de mener en tant que chroniqueur récurrent. Et dans ma dictature, qui s'appellerait d'ailleurs certainement le Pédokistan, hein, avec sa fameuse devise « Aïe, doucement !» Pas grave, je pensais qu'elle allait mieux marcher, mais y a pas de souci. Invisiblement, quand Mathieu est pas là, on peut vraiment compter sur personne. Hein. Ah, je peux vous dire qu'il y aurait eu... Il n'y aurait pas eu de gender gap. Tout le monde aurait voté la même chose et j'aurais veillé au grain, hein, dans ma monarchie. Manon, vous avez bien voté pour mon mari?
C'est qui?
Garde, saisissez-la. Qu'on lui coupe la tête à cette menteuse. Ça ne lui suffisait donc pas d'être laide. À genoux. Pardon, je me suis emporté. C'est parce que la semaine dernière, j'étais dans un donjon SM et ça m'a un peu fait vriller, ce truc de domination, et en même temps, c'est ma vie privée. Mais si je m'attaque à toi, Manon, c'est parce qu'on s'attaque toujours aux femmes en dictature. C'est ce qu'on nous apprend en premier à l'école des despotes. Hein, Cyril? Tu te souviens des cours? Franchement, t'es un élève modèle. Hein.
Le meilleur.
Ah non, mais ta dissertation sur comment imposer ses points de vue en équipe, oh, une masterclass. Tous les profs le diraient, tu finirais dirigeant toxique. Et regarde, ouais. T'as rien lâché. Et tu vois, même Mathieu Noël n'ose plus venir travailler. Faut s'attaquer aux femmes, qu'on nous disait, et aux minorités. Sinon, après, elles ont un trop grand pouvoir quand elles se mobilisent. Aux États-Unis, si seules les femmes avaient voté, Kamala Harris aurait gagné. Et si seules les LGBT avaient voté, alors Beyoncé aurait gagné. Bon, font un peu n'importe quoi, des fois, les copines. En tout cas, ce que nous apprend le gender gap, c'est que c'est toujours le même qui fait chier. Le vieil homme blanc. Je veux dire, est-ce qu'un jour, il va nous laisser tranquille pour se concentrer uniquement sur son entrecôte du midi, celui-ci? Je veux dire, il peut plus prendre les escaliers parce que ça fait 40 ans qu'il fait entrée plat dessert, hein, mais il va nous expliquer comment voter. En plus, Il pullule, je suis à deux doigts de mettre des pièges dans la rue pour endiguer le phénomène. Je veux dire, ce seraient des pièges très simples. Hein. C'est comme des tapettes à souris, sauf que le fromage, en fait, c'est une stagiaire qui dit non. Après, bon, je casse du sucre sur les vieux mâles blanches. Le seul truc qui fait que j'en suis pas encore un, c'est ma prostate. Hein, parce qu'elle est jeune, oui, c'est vrai, merci pour elle. Mais également parce qu'elle est stimulée. Et je recommande l'activité, Cyril, tu te souviens? C'était bien. Bref. Ça te détendra, tu voteras peut-être moins à droite après. moi en tout cas, le gender gap en étant gay, bah, je suis du côté des filles. Je veux dire, on se bat pour l'égalité entre cops qui se comprennent, quoi. Mais bon, hein, Manon, c'est un peu relou à chaque fois de voter pour les perdants.
C'est clair.
Bon, en fait, je crois qu'on vote pas qu'en fonction de son genre. Hein. On vote aussi en fonction de qui on est et d'où on vient. Et les gens qui votent pas comme nous, c'est pas forcément parce qu'ils sont femmes ou hommes, c'est principalement parce qu'ils sont cons. Et c'est la seule règle d'or en politique.
Merci beaucoup, Jessé. À jeudi prochain dans Zoom Zoom Zen et au Petit Palais des Glaces les jeudis et vendredis jusqu'au 28 mars. Et puis en tournée partout en France, Suisse et Belgique, notamment dans des belles villes de Clermont-Ferrand et Bastia. Belle promo.
Merci beaucoup.
Merci Anya Durovitch de nous avoir éclairé sur ce qu'est le gender gap. Je signale votre dernier ouvrage, Jeunesse française contemporaine, paru en octobre dernier au CNRS Éditions.
Zoom Zoom Zen.